Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marie-Anne Durand-Lacaze.
L'architecte Jacques Rougerie, qui conçoit des vaisseaux et des habitations pour les espaces extrêmes, tels que la mer et l'espace, vient de créer sa fondation. La fondation Jacques Rougerie, Génération Espace-Mer, est née parce que la protection de l'environnement naturel est d'abord affaire d'éducation. Jacques Rougerie en est convaincu. L'éveil des jeunes générations nécessite un effort éducatif constamment renouvelé pour mener à bien des projets scientifiques dans l'intérêt de tous, tout âge confondu, pour nous comme pour ceux qui viendront après nous. J'accueille aujourd'hui dans le studio de Canal Académie Jacques Rougerie, membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section architecture depuis juin 2009, pour présenter la Fondation Jacques Rougerie, Génération Espace-Mer. Jacques Rougerie, bonjour.
Bonjour.
Jacques Rougerie, habituellement, on vous interroge sur votre œuvre architecturale, sur vos vaisseaux, sur les projets que vous avez, tels que le musée d'Alexandrie. Mais là, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de votre engagement pour préserver l'environnement. Non pas que vous ne vous soyez pas engagé précédemment, mais avec cette fondation, Génération Espace-Mer, vous franchissez une nouvelle étape dans cet engagement qui est le vôtre depuis très longtemps, puisqu'il est même aussi à l'origine de vos inspirations en matière d'architecture. Alors, comment est née l'idée de cette fondation, très récemment créée en décembre 2009, il y a à peine quelques mois donc.
D'une façon assez simple et extrêmement logique, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être nommé à l'Institut de France, donc dans la section de l'Académie des Beaux-Arts. Avant, j'avais une association Espace-Mer avec Jean-Loup Chrétien et Jean-Loup Étienne et d'autres, où on essayait d'œuvrer pour les jeunes générations, comme son nom l'indique, l'espace et la mer, les deux mondes extrêmes, futurs de nos civilisations, essayer d'aller dans l'espace et essayer d'aller sous la mer, donc accompagner ces jeunes générations. Donc à partir du moment où j'ai été nommé à l'Institut de France, donc à l'Académie, je me dois de perpétuer cette association et d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, grâce à l'Institut de France, puisqu'elle est sous l'égide de l'Institut de France, est née la fondation Génération Espace-Mer, bon, qui porte mon nom, mais où on veut continuer à perpétuer ce que nous avons fait depuis une trentaine d'années, à œuvrer pour l'éducation, pour l'éveil des enfants, pour que les enfants agissent sur ce monde de demain.
Juste une petite précision, vous nous avez dit que la fondation était abritée à l'Institut de France ou à l'Académie des Beaux-Arts ?
À l'Institut de France.
Vous avez signé donc la convention il y a peu, en décembre dernier. Revenons un petit peu sur ce nom que vous venez d'évoquer, Génération Espace-Mer, un nom qui porte à lui seul un défi, un rêve, un programme.
Oui, qui porte un rêve, le rêve de bâtir le futur, qui porte le rêve de créer des vocations auprès des jeunes générations et de leur donner les moyens de bâtir leurs rêves, donc de concrétiser ces rêves et donc de leur offrir la possibilité en bâtissant à travers des outils, à travers une architecture, à travers un design. Donc, c'est créer des outils qui les accompagnent à bâtir leurs rêves. Bien entendu, ces outils peuvent servir pour la science, peuvent servir pour l'observation, peuvent servir même pour le plaisir, le ludique. Mais c'est à chaque fois que c'est construire, bâtir, créer quelque chose qui soit autre que le côté purement scientifique, observation. Par exemple, l'observation des baleines, qui est une très bonne chose. Il y a plein d'associations, de fondations qui déjà œuvrent dans ce sens-là d'une façon fantastique. Et donc, c'est plutôt pour accompagner ces fondations ou ces jeunes à créer leurs propres outils. Par exemple, nous travaillons en ce moment avec des associations sur les enfants handicapés, handicapés moteurs et paraplégiques, par exemple. On le regard d'un enfant paraplégique quand il plonge, quand ils ont eu la chance de plonger, est extraordinaire. Donc, créer des outils qui leur permettent de plonger. Voyez, c'est ça qui nous intéresse et c'est là où on veut œuvrer pour accompagner tous ces jeunes qui ont des rêves dans la tête, qui ont des vocations et qui vont créer leur propre monde de demain.
Cette fondation qui s'adresse aux générations futures, mais aussi à nos contemporains.
Mais à toute génération, hein,
voilà,
soyons clairs, mais plus particulièrement aux générations futures.
La fondation a donc des missions très larges. Vous aviez l'air d'évoquer une mission fédérative, là.
Oui, alors, vous avez large évoqué... et pas large, attention, c'est créer des outils, je dis bien. Oui. C'est pas, par exemple, il y a une catastrophe, comme ça arrive malheureusement trop souvent, d'un supertanker qui dégaze ou qui a sombré aux larges des côtes bretonnes, c'est pas aller ramasser le fioul ou ramasser... Non, par contre, si des jeunes, une classe, décident de créer, ils ont trouvé une astuce pour faire une pelle spéciale, par exemple, ou un engin pour ramasser, à ce moment-là, on les aide. Voilà, c'est toujours cette notion de construire, créer des outils d'accompagnement de notre civilisation par rapport à des engagements durables sur l'environnement. Donc, toujours une relation au développement durable. Ça, c'est très important.
Mais alors, ça veut dire que la Fondation s'adresse aussi bien à des élèves du secondaire, mais aussi des étudiants et à qui veut.
Et à des associations et à des individus qui, eux-mêmes, un individu peut très bien nous proposer. Il va y avoir des bourses, il va y avoir des prix. Par exemple, l'association déjà Espace Mer a attribué un prix Jacques Rougerie de l'architecture et du design de la mer dans le cadre du Festival international du film sur la mer qui a lieu depuis 30 ans chaque année. Donc, on avait un prix très modeste. Voilà, donc la Fondation va se substituer à cette association. Donc, la Fondation Jacques Rougerie sous l'égide de l'Institut de France va offrir le prix de l'architecture et du design de la mer. Voilà, donc pour que ces jeunes, il y a des jeunes architectes, il y a des jeunes designers qui me contactent sans prétention à travers le monde. Constamment, je reçois des emails et tout, qui me soumettent des projets extraordinaires, des rêves complètement réalistes. Donc, essayer de les aider, on va les sélectionner et les aider. Et puis, accompagner aussi des bourses, parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. Donc, c'est vraiment créer des vocations. Donc, on fera des bourses au cœur même de l'Institut de France, dans le cadre des fondations de l'Institut de France, où on déterminera 3 bourses par an. Donc, nous aurons des budgets pour ça, pour accompagner des jeunes chercheurs ou non-chercheurs, on va le définir avec l'Institut de France, pour les accompagner, leur permettre de bâtir leur vocation, enfin de bâtir leur rêve.
Donc, ça n'inclut pas d'entrer dans une école particulière, mais au contraire, d'avoir un projet pour faire des outils utiles pour le design et l'architecture de la mer et la protection aussi.
Tout à fait. Hein, il faut que ce soit dans le sens de la protection, de la connaissance ou de l'exploitation, mais dans le cadre du développement durable.
Toujours. Je pense qu'effectivement, vous allez être très sollicité.
Déjà, nous sommes sollicités.
Déjà, vous êtes sollicité. Pour avoir une petite idée, vous parliez de projets extraordinaires. Qu'est-ce que vous aviez reçu récemment qui vous a...
Alors,
ébloui, par exemple.
D'abord, un des fers de lance de la Fondation, un des fers de lance d'outils pour dynamiser, avoir un outil, un peu un vaisseau amiral en quelque sorte de cette création que nous voulons, c'est C-Orbiter. Donc, la Fondation va participer dans le cadre justement de la création de ces outils qui accompagnent C-Orbiter. Donc, la Fondation a pour vocation de mettre aussi en place C-Orbiter dans le côté éducatif justement des jeunes générations.
Donc, on a cet appel à la création d'outils et tout ce qui tourne autour du design de la mer et de l'architecture de la mer. Et puis, vous avez un appel pour tout ce qui concerne la mise en œuvre de C-Orbiter. Donc, c'est les deux grands, on va dire, les deux grandes branches,
absolument,
les deux grandes missions de votre fondation Génération Espace Mer. Ce projet C-Orbiter, qui est un double projet quand même aussi scientifique éducatif, on retrouve toujours cette double référence dans tous vos projets en fait. Vous pourriez nous rappeler en quoi consiste C-Orbiter, cette belle plateforme?
Alors C-Orbiter, c'est une nouvelle forme des temps modernes d'exploration. C'est dans la tradition des grandes explorations passées, que ce soit la Pérouse ou d'autres explorations, mais d'un autre genre, d'une autre façon, c'est dérivé dans la grande masse océanique qu'est le Gulf Stream, avec un équipage de 18 personnes, avec un engin qui va permettre à ces 18 membres d'équipage dont je fais partie d'avoir un regard permanent, 24 heures sur 24, sous la mer. Il faut imaginer un vaisseau d'argent, donc un bateau à la verticale et qui va dériver dans cette masse d'eau. Donc la particularité, c'est cette observation 24 heures sur 24 sous la mer, en continu. L'autre particularité, c'est de pouvoir sortir de cet engin tel une station orbitale. Donc on est dans la technologie réelle, on n'est pas dans la science-fiction. Donc on est dans une technologie appréhendée par des groupes comme DCN, Principia, donc, qui sont des industriels bien connus, qui ont validé donc, cette technologie. On va pouvoir sortir à l'extérieur de Cyorbiter par moins de 12 mètres de profondeur pour faire un certain nombre d'activités scientifiques, d'observation, de protection de la nature. Mais surtout, ça va être un magnifique réservoir, enfin une ruche pour rassembler toutes ces données, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'appareils de mesure qui vont partir de cet engin, robotisé ou non robotisé, à travers des sous-marins biplaces, mais de transmettre. Cette ruche aura pour mission de transmettre aux jeunes tout ce savoir, toute cette connaissance que nous allons acquérir grâce à cet outil qui est Cyorbiter, et donc de communiquer avec eux en temps réel ou par rapport à des programmes, des expositions. Et donc cet outil est vraiment avant tout à la disposition de cette génération Espace-Mer, de cette fondation, relayée bien entendu par des scientifiques, puisqu'il y aura à bord des scientifiques qui vont valider les programmes scientifiques développés, mais auront l'obligation, il y a une charte à bord du Cyorbiter, de communiquer toutes les données qui seront récoltées. Voilà.
Ces scientifiques viennent du monde entier ?
Alors, on a des demandes. On est déjà avec la NOAA, avec IFREMER, bien entendu, en France, avec Cordi, les Coréens, avec le JAMSTEC, les Japonais. Donc, même avec les Chinois maintenant, je rentre de Chine, qui demandent à une participation. Donc, il y a une coordination qui se fera à travers IFREMER, donc les scientifiques d'IFREMER. Mais on est, sans prétention, un peu submergé de demandes.
Tant mieux. Donc concrètement, vous avez déjà un prototype de Cyorbiter ? Il y a eu des essais de maquettes, j'ai vu ça sur le site.
Alors nous travaillons, on a optimisé le projet Cyorbiter à travers une validation en bassin de Carène d'un modèle au 15e, donc c'est déjà significatif. Je vous rappelle que Cyorbiter fait 51 mètres de haut, dont 20 mètres au-dessus de l'eau. Imaginez une immense bouée de 20 mètres au-dessus de l'eau et 31 mètres sous l'eau. Et tous les quartiers de vie se trouvent sous la mer. Je rappelle que tout le monde vit, les 18 membres d'équipage vivent sous la mer. Et donc, on a, grâce au MarineTech, le plus grand centre d'essai au monde en Norvège. Donc, nous avons validé le modèle en bassin de Carène sous toutes conditions de mer, y compris cyclone, vent, courant, houle croisée. Donc, on a validé la stabilité de l'engin, la tenue à la mer de l'engin, la sécurité des hommes à la mer que peut offrir cet engin. Et donc, c'est un peu comme Veritas, si vous voulez. Ils ont validé que cet engin est apte à prendre la mer. Voilà. Donc, des CNS, qui sont les chantiers, entre autres, de la Marine nationale française, qui s'ouvrent donc sur le développement durable, sur les énergies renouvelables de la mer, ont décidé, donc on a un accord avec eux, de partenariat, c'est eux les maîtres d'œuvre, pour mettre en œuvre Cyorbiter dans sa configuration qui a été validée par le MarineTech et pour lui donner encore plus de valeur symbolique et de valeur industrielle en y mettant des capteurs de houle, des capteurs de renouvellement d'énergie venant de la mer. Et donc, ils nous accompagnent et dans la mise en place de ce programme et dans la construction de Cyorbiter et dans le suivi de Cyorbiter. Donc, Cyorbiter s'adresse bien entendu aux industriels qui ont vocation de s'orienter vers le développement durable, vers les énergies renouvelables. Et donc, on est en accompagnement avec un certain nombre d'industriels dans ces secteurs, mais qui ont une vision mondiale, qui ont donc un besoin de s'identifier par rapport à une internationalisation de ces problèmes. Non pas, on n'est pas français, franco-français.
Est-ce qu'il y a un prototype ou est-ce que c'est le prochain objectif ?
Alors, c'est le prochain objectif. Nous finalisons en ce moment les études pour lancer donc un appel d'offres fin juin, début septembre. Et nous mettrons en chantier le premier Cyorbiter. Je dis bien le premier Cyorbiter, on va y revenir. Début novembre 2010, pour qu'il soit... Donc, il faut un an de chantier. Donc, le chantier n'a pas été sélectionné, puisque je vous dis, on va faire des appels d'offres. On espère que ce sera en France, mais ça peut être en Italie ou en Espagne ou même au Portugal. Donc... En un an de construction, c'est un petit bateau, hein, c'est 50 mètres de long, donc un peu sophistiqué technologiquement, mais c'est des technologies que des CNS connaissent bien ou le MarineTech. Donc même la partie en saturation, donc pressurisée, on connaît tout ça, c'est des caissons de saturation. Donc si vous voulez, il ne faut pas plus d'un an pour le construire. Donc le cahier des charges, c'est un an. Et on sera donc opérationnel fin 2011 pour être définitivement sur le site début 2012.
Donc tout ça est très très rapproché. Donc on est dans la recherche des financements et la construction de ce vaisseau unique qu'est Sea Orbiter. Le deuxième objectif lié à Sea Orbiter, c'est la récolte scientifique, l'observation, les mesures dont vous avez parlé, tous ces travaux scientifiques.
Le climat,
je suppose la veille ou la surveillance des espèces, des migrations.
La biodiversité, nous sommes dans l'année de la biodiversité, donc Sea Orbiter est en plein dans ses objectifs.
Dans ces problématiques qui nous concernent tous. Comment les écoles vont suivre ce projet ou peuvent-elles suivre ce projet ?
Alors, il est évident, ça a toujours été l'objectif de notre association depuis 25 ans, c'est l'objectif de la Fondation. J'ai la chance que le ministre de l'Environnement, Jean-Louis Borloo, et l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, m'avaient nommé dans la commission sur l'école agit, donc qui est un peu le fer de lance sur le Grenelle de la mer pour que les jeunes générations agissent. Donc l'école agit, l'institut de l'école agit va participer au programme de la Fondation et au programme donc Sea Orbiter. Donc on a une assise forte sur l'éducation nationale, une assise forte pour ces programmes, donc pour mettre en place au niveau même de l'Europe, et même les Brésiliens ont demandé justement dans le cadre des Jeux Olympiques et tout de bâtir quelque chose au niveau des États-Unis aussi, on est en train de voir au niveau de la Chine. Donc c'est clair qu'il faut donner la possibilité à ces jeunes générations d'agir à travers des structures éducatives, à travers les structures d'enseignement. Donc ça veut dire que nous allons bâtir avec eux des programmes, chaque école prendra un thème préférentiel, c'est ce qui est déjà fait d'ailleurs dans l'école AGI, où les écoles proposent en groupe des thèmes qui peuvent être très très variés sur le développement durable, ça peut être la consommation électrique par exemple, bon ça ne concerne pas notre fondation ni Sea Orbiter, mais dans une école, la consommation électrique, eh ben, il y a des classes qui ont décidé de voir comment moins consommer en achetant des petits appareils qui ferment l'électricité suivant l'intensité de la lumière, ainsi de suite. Et donc, on leur donne à travers l'école AGI la possibilité de poursuivre ces programmes. C'est par exemple l'école de rue Olivier de Serres, donc j'ai accompagné le ministre. On a vu, ils avaient choisi une serre, c'est le cas de le dire. Ils avaient choisi une serre. L'école avait choisi de cultiver leurs radis, leurs poireaux, leurs tomates, et ainsi de suite, pour comprendre justement qu'est-ce que sont ces aliments, qu'est-ce qu'ils représentent. Et donc, par exemple, des radis, des enfants, certains enfants en avaient jamais mangé, et ben, du coup, ils ont cultivé ces radis, ils l'ont amené dans leur famille, ils l'ont mangé, ils ont été au marché avec les parents, ils ont continué, ils ont compris tout ce que ça comportait, et donc on les accompagne à bâtir cette serre, à construire cette serre pour continuer dans ce sens, vous voyez ?
Oui, Sea Orbiter, c'est pas seulement donc un projet franco-français, européen, c'est apparemment un projet qui fédère tous les États, qui peut fédérer toutes les nations. Donc, un projet sans frontières. Comment est-ce que votre fondation s'inscrit dans les politiques européennes où vous nous avez parlé un petit peu de l'enseignement, mais par rapport à l'Union méditerranéenne, par rapport au Grenelle de la mer, comment vous allez vous inscrire avec Sea Orbiter ? Alors, puisque c'est justement un élément fédérateur formidable.
C'est un élément fédérateur, pas unique. Hein. Il y a d'autres fondations, il y a d'autres actions comme Tara, la Boudeuse et d'autres qui œuvrent pour le Grenelle de la mer, pour ces grands défis planétaires. Mais c'est vrai que Sea Orbiter a fédéré, je vous parlais tout à l'heure de l'école AGI, donc le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe. Mais Sea Orbiter a aussi fédéré les les Nations Unies à travers le Forum global des océans, à travers donc tout le réseau mondial des aquariums, des centres de la mer qui sont rentrés en réseau à travers ce Forum global des océans. Donc Sea Orbiter va être un des fers de lance, le fer de lance même de ce réseau mondial, c'est-à-dire que l'aquarium de Monterey, qui est un des plus beaux, qui est extraordinaire aux États-Unis, ou celui de Baltimore, ou celui de Sydney, celui de Singapour, celui de Tokyo, celui d'Océanopolis à Brest en France, celui de Lisbonne, Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, Monaco, donc d'où partira Sea Orbiter, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Donc, nous allons être constamment en liaison avec eux, en relation thématique, en exposition. Donc, il y a des programmes qui sont en train de se bâtir avec tous ces centres de la mer et on rentre en réseau pour avoir justement ce côté planétaire. Ça concerne Sea Orbiter, disons, c'est vraiment une sentinelle des océans pour la planète. Ce n'est pas un projet uniquement franco-français, comme je vous disais tout à l'heure. Ça part de la France avec une résonance aux États-Unis, avec une résonance des Coréens. Mais c'est vrai que ça va partir du bassin méditerranéen où il y a toute une problématique posée par l'Euroméditerranée, par toutes les actions qui sont menées. C'est une belle échelle d'analyse. C'est là que vient le cœur de la plongée sous-marine, de la naissance de tout ce rêve de l'homme d'aller sous la mer à l'origine, même depuis les Grecs, de regarder sous la mer, d'avoir cette connaissance. Puis Cousteau, puis la Comex, puis même le monde de Jules Verne. Donc tout s'est fait au cœur de ce bassin méditerranéen. Donc ça a du sens, ça a une symbolique. Et puis à l'heure actuelle, par rapport à ce bassin méditerranéen, les pays riverains et tout, de faire un programme éducatif, scientifique, de collaboration à l'échelle de l'Europe, de ce premier voyage de Sea Orbiter. C'est pour ça que le prince Albert de Monaco, qui est le président d'honneur de la fondation que je porte, donc a demandé que Sea Orbiter parte du musée océanographique parce que c'est le premier grand musée au monde sur l'océanographique, sur toute la problématique il y a déjà un siècle. Son aïeul avait déjà, le prince Albert Ier, œuvré dans ce sens-là et a donné à la France les moyens de développer une politique de l'océanographie, de recherche. Et c'est comme ça que l'Institut océanographique rue Saint-Jacques, voilà. Donc, c'est un retour aux sources. Le prince Albert II est très attaché à l'environnement, au développement durable, à l'éducation. Donc, j'ai la chance de l'avoir comme président d'honneur et qu'il porte ce projet, donc d'accompagner tout ce programme au cœur du bassin méditerranéen, et même après, puisque je vous rappelle, fin 2012, une fois qu'on aura fait un programme de 8 mois à travers la Méditerranée, donc dans les différents pays riverains de la Méditerranée, avec chaque côté éducatif de chaque pays, nous partirons donc à la grande, grande aventure qui est la dérive dans le Gulf Stream pendant 2 ans, là où on part pour une mission au cœur de ce Gulf Stream, au cœur de l'océan Atlantique, à la découverte de cette biomasse, de phénomènes jamais observés, de compréhension. Et on sent, comme je vous dis, on sera en relais avec ces centres de la mer planétaire. Et donc, il y aura, et avec tous les outils merveilleux que l'homme a su créer, Internet et autres, on sera en communication. Et donc, tout ça est bien géré par le Forum global des océans. Et on, voilà, on est en train de bâtir tout ça.
Et à long terme, mais je vois que vous allez très très vite, vous prévoyez de construire des vaisseaux, mais plusieurs Sea Orbiter pour chaque grand mer ou chaque grand ou chaque océan.
Le projet Sea Orbiter n'est pas le rêve fou d'un homme, c'est pas du tout une aventure unique, c'est dans l'air du temps, ça participe à la compréhension, aux problèmes que nous nous posons d'une façon planétaire qu'on a vu à Copenhague. Sea Orbiter a participé à Copenhague. J'ai donc présenté Sea Orbiter à Copenhague. Donc, participe à cette connaissance, à cette protection, à cette exploration, à cette exploitation même des océans avec ces énergies nouvelles ou les nourritures du futur. Donc, pour que c'est du sens, il ne faut pas qu'il y ait qu'un Sea Orbiter dans le Gulf Stream. Le Gulf Stream est sous l'influence aussi du El Niño et ainsi de suite. C'est vraiment les phénomènes climatiques, c'est des bascules d'un océan à l'autre, c'est donc les grands courants océaniques, entre autres, et ainsi de suite, et les grandes migrations des grands migrateurs, eh ben, ils passent d'un océan à l'autre. Et voilà, beaucoup plus facilement qu'on ne pensait. On croyait dit qu'ils restaient... Bon, certains restent dans certaines zones, mais beaucoup passent d'un océan à l'autre. Alors, c'est pour ça que ça a du sens de rentrer en résonance à travers un ciel orbitaire dans chaque grande zone océanique, que ce soit le Pacifique, que ce soit l'océan Indien. Et donc, il y a un réseau prévu de 7 à 8 ciels orbitaires, plus ou moins grands les uns des autres, suivant les besoins, et qui sont en liaison constante, en résonance, pour analyser le pouls de la planète, les battements de cœur de la planète, et savoir comment cette planète vit et comment les hommes peuvent vivre en symbiose à travers cette planète d'une façon nouvelle. Voilà, on est dans une nouvelle ère qui s'ouvre à l'homme dans son comportement face à la planète et donc forcément dans le comportement entre les hommes humains. Eux-mêmes, parce que ça va avoir des conséquences entre les hommes. Les hommes se comporteront forcément différemment entre eux à cause de ce phénomène mondial de réseau.
Vous êtes foncièrement optimiste, mais peut-être que le réseau...
Je suis optimiste, mais pourquoi on ne serait pas optimiste ? Je suis un optimiste pragmatique, je suis un rêveur, comme je dis haut et fort, pragmatique. J'ai la chance de parcourir le monde depuis très longtemps. Je suis quasiment né en Afrique, je suis né à Paris, mais à 6 mois, j'étais en Afrique, en brousse. J'ai vu des choses merveilleuses, j'ai vu des choses atroces toute ma vie, comme beaucoup de gens. Donc, je suis lucide sur ce qu'est l'homme, mais l'homme a aussi du génie, l'homme a aussi de la générosité, et l'homme bâtit son futur, bâtit ses civilisations avec des secousses, avec des drames, mais aussi avec de la générosité. Quand on voit ce qui se passe à Tahiti, même si ce n'est pas complètement nickel, et le tsunami, qu'est-ce qui s'est passé, cet élan international. Bon, donc l'homme, il faut arrêter ce côté masochiste, il faut arrêter le côté pessimiste, il faut être pragmatique, bien sûr, mais il y a des films qui montrent tout le temps des catastrophes. Moi, je viens de voir ce film merveilleux avec Perrin, Jacques Perrin, 3 fois son film, discuter avec lui. C'est extraordinaire. Enfin, un film qui donne une bouffée de poésie, d'espoir et qui montre la brutalité de l'homme et qui montre la réalité de ce qu'est la nature entre elles. Donc, cette nature exigeante pour des questions de survie nutritionnelle des animaux entre eux, je parle bien entendu, mais le respect que les animaux ont entre eux. Et on voit d'un seul coup... un rapport, un nouveau rapport qui est en train de naître, un nouvel comportement des hommes par rapport à la nature. Et quand je vois François Sarano donc, à côté de ce requin qui nage, et cette beauté, ce monstre, on a fait les dents de la mer, on a parlé de ce requin blanc, de tous ces requins, mais c'est une absurdité. Et là, il montre au contraire une poésie, il montre que l'homme peut se réconcilier avec les animaux et la nature et vivre en harmonie avec cette nature. Et quand on voit cette baleine avec ce bébé et qu'on voit à nouveau les plongeurs de Sarano et lui-même autour de cette baleine, j'ai eu la chance non pas de vivre l'émotion qu'il a vécue avec le grand requin blanc, mais j'ai plongé avec les baleines. Je plonge, j'étais encore à Noël, j'étais aux Bahamas, j'ai plongé avec des bandes de requins marteaux. C'était extraordinaire. À aucun moment, je ne suis pas un kamikaze, j'ai risqué ma vie, pas du tout. Donc le rapport à la nature, les animaux sont beaucoup plus respectueux des hommes que nous sommes respectueux des animaux. Voilà, donc je crois qu'on est à la naissance d'un nouveau comportement. Les jeunes nous amènent vers ça. C'est eux qui nous éduquent et c'est Michel Serres qui le dit d'une façon merveilleuse. C'est les jeunes qui sont en train de nous éduquer. Alors que moi, ma génération, c'était nos parents qui nous éduquaient. Donc on accompagne les jeunes, bien sûr. On est là pour leur donner les limites et tout. Mais il faut les écouter. Il faut écouter cette nature. Il faut donner cette générosité. Il faut créer ces outils pour cette compréhension. Et c'est pour ça que la Fondation existe, donc Génération Espace-Mer. C'est pour ça que cette Fondation va accompagner ces jeunes pour qu'ils voient que leurs rêves peuvent devenir réalité, qu'il faut y croire, il faut être optimiste, mais être pragmatique, c'est-à-dire faire attention, il y a des règles, des lois, et que la liberté, il faut savoir la mesurer.
La Fondation Jacques Rougerie, qui a donc pour objectif de créer ces outils de demain pour cette belle vision de l'humanité qui est en train d'évoluer en ce moment, comment en faire partie ? Comment vous aider ?
Nous aider, bien entendu. Nous souhaitons que vous venez le plus nombreux pour nous aider. C'est déjà nous envoyer un email. On vous enverra à partir de là ce que représente cette fondation, ses actions. On a la lettre de la fondation pour l'année 2010, sa vocation, ses actions. On est en train de bâtir le site Internet, bien entendu.
Il est déjà bien fourni, on peut
pas,
toujours...
Non, il est juste au balbutiement, donc... Il y a fondationjacquesrougerie.com et puis aussi une des grandes actions de la fondation, c'est siorbitaire.com où vous pouvez voir tout le travail que nous avons mené avec l'association Espace Mer, avec l'agence. C'est jacquesrougerie.com. Donc, vous pouvez aller sur le site et bien entendu, nous avons un réseau qui fait qu'on peut voir comment insérer les gens plus ou moins, les actions, les programmes. Donc, nous analysons tout ça et il est évident que les gens qui veulent participer au fondement de donc une fondation
et pour la recherche des
permet la recherche de fonds et nous sommes en train de récolter des fonds d'industriels qui veulent nous accompagner parce que ça a du sens pour eux de bâtir le futur ou d'autres fondations qui nous aident d'ores et déjà qui ont vu cette synergie entre les fondations et de la même façon nous aiderons des fondations. Nous avons d'ores et déjà la fondation Iosis parce que ce sont des ingénieurs qui nous aident donc dans cette fondation qui donc ont fait un don à la fondation pour bâtir ce futur, ces outils puisque ce sont des ingénieurs. Vous voyez, ça a du sens. Et toutes personnes qui veulent faire don, bien entendu, seront les bienvenues. Je vous rappelle que c'est déductible des impôts, en partie.
Alors, merci beaucoup, Jacques Rougerie, de nous avoir présenté cette fondation qui ne va pas manquer de susciter des vocations. Vous êtes déjà sollicité pour ce beau projet. On peut suivre déjà sur Internet, on peut visiter virtuellement la plateforme Siorbitaire, cette sentinelle des océans que vous avez présentée.
Donc on va vous offrir justement le film que je vous engage à regarder, le nouveau film de Siorbitaire, en 3D bien sûr. Donc le film, vous pourrez voir ce que représente ce vaisseau d'argent. Donc pourquoi argent ? Parce qu'il est en aluminium, donc il a cette couleur un peu argent. Ce vaisseau qui va parcourir l'océan Atlantique, le Gulf Stream, avec un équipage qui aura cette permanence sous la mer, ce regard. Et donc ce film traduit bien tout ça. Donc je vous engage à le regarder.
Très très beau film. Merci beaucoup Jacques Rougerie.
Merci à vous. Thank you.